Le débat du jour.
Anne Souhaitemont.
Chers compatriotes, moi je vous propose de voter pour. On a pris l'habitude de voter par élimination, par défaut, je vous propose de voter pour. Pour le futur désirable que je veux incarner, mais pas seul. Pour la transition écologique, pour la transformation du travail, pour finalement que nos enfants grandissent dans un monde qui soit vivable et respirable, c'est mon obsession.
À voter pour, c'était hier soir, conclusion du débat inédit organisé chez nos confrères de BFM TV et CNews. Un débat entre les 11 candidats au premier tour de la présidentielle 2017. Benoît Hamon, candidat socialiste, lance un appel aux électeurs, un appel à ne pas céder aux sirènes du vote utile, des sirènes qui chantent fort ces temps-ci. Le vote utile, c'est l'argument de plusieurs des personnalités qui ont affiché leur soutien à Emmanuel Macron ces dernières semaines, Manuel Valls, l'ancien Premier ministre, ou encore Bertrand Delanoë, poids lourd du Parti Socialiste. Au-delà de son programme, de sa démarche, le candidat En Marche serait aussi, surtout pour certains, le seul en mesure de se qualifier pour le second tour et ensuite de battre Marine Le Pen. Un vote utile qui divise à gauche, d'un côté le traumatisme de 2002, encore vif pour certains électeurs qui, sûrs de pouvoir voter Jospin au second tour, tant les sondages étaient catégoriques, avaient donné finalement leur voix à un autre candidat au premier tour. De l'autre, des électeurs séduits par les discours de Hamon ou Mélenchon et qui s'énervent d'enquêtes d'opinion qui les forceraient à s'en détourner au nom de la lutte contre le Front National. Alors est-on condamné à voter raisonnable plutôt que programme? Le vote utile est-il légitime? C'est notre sujet de ce soir. Bienvenue.
RFI.
Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir deux invités. Willy Pelletier, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes sociologue, coordinateur général de la Fondation Copernic. Vous avez coordonné avec Gérard Mauger l'ouvrage qui s'intitule « Les classes populaires et le Front National » qui est paru aux éditions du Croquant. En face de vous, Serge Galam, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes physicien, théoricien, spécialiste des systèmes désordonnés. Alors, c'est d'actualité, effectivement. Par ailleurs, fondateur de la sociophysique et vous êtes directeur de recherche au CNRS, membre du CEVIPOF. À Sciences Po. Alors messieurs, peut-être pour commencer une réaction au débat d'hier. Willy Pelletier, on avait ces 11 candidats qu'on a pour certains pas vraiment l'habitude d'entendre, en tout cas dans la longueur comme ça, à égalité totale entre eux. Est-ce que vous trouvez que c'est un débat qui a été intéressant, peut-être nécessaire pour la démocratie ?
Oui, ce que je trouve en tant que citoyen a peu d'importance, je pense, ça fait partie de ces cérémonies médiatiques, mais le plus important, c'est d'appréhender en quoi ils peuvent ou non avoir des conséquences électorales. Et en l'espèce, je pense qu'ils n'en ont pas, parce que les gens ne votent pas sur des déclarations, ils votent sur leurs conditions de vie. À partir de leurs conditions de vie, à partir de leurs histoires sociales, à partir de leurs douleurs, de leurs souffrances, de leur position par rapport aux groupes sociaux qui sont immédiatement rivaux ou proches d'eux, contre ces groupes ou bien pour s'allier à ces groupes. Et donc je pense que ce débat n'a pas beaucoup d'influence, de conséquences électorales.
Il n'a pas modifié les trajectoires électorales.
Non, les professionnels de la politique ont tendance à croire beaucoup en la vertu de leurs propres paroles, mais souvent les votes s'effectuent dans beaucoup de malentendus. Et un grand nombre, par exemple, on parlera sans doute du vote Le Pen, mais un grand nombre de votants Le Pen ne connaissent pas le programme de Marine Le Pen. Ils votent pour tout autre chose, pour des causes structurelles que nous essayons effectivement dans cet ouvrage coordonné avec Gérard Mauger d'expliquer, et qui sont infiniment plus longue à se développer, à se mettre en place que telle ou telle phrase ou punchline, comme il est coutume de dire.
Oui, alors c'est effectivement un mot qu'on a beaucoup entendu depuis hier soir. Serge Galam, votre regard sur ce qui s'est passé hier soir, peut-être en matière de dynamique électorale, comme vient de nous dire Willy Pelletier, pour vous, il y en a eu, il n'y en a pas eu, il y en aura peut-être ?
En général, effectivement, ça n'a pas trop d'impact sur les intentions de vote au moment du débat, mais je crois que l'intérêt, c'est que ça maintient effectivement une concentration, un enjeu sur les élections et éventuellement pour la participation au vote. Donc ça, c'est intéressant puisque ça anime la campagne.
Surtout quand on sait qu'aujourd'hui, l'abstention est une des grandes craintes du scrutin au premier tour, comme au second tour d'ailleurs.
Exactement, on va en parler. Moi, mon travail là récent, c'est sur cette abstention j'ai fini l'abstention différenciée. Mais donc, je crois que c'est pas mal. Le deuxième intérêt que je trouve à ce débat, c'était de voir la dissonance qu'il y avait entre, si on peut dire, les professionnels de la politique les grands candidats qui ont un discours très très huilé, tout est bien organisé, et les autres candidats qui peuvent paraître amateurs, mais c'était intéressant d'avoir cette dissonance dans le discours.
Willy Pelletier, vous voulez réagir?
Sur le débat, peut-être que l'un des aspects les plus importants, c'était, parce qu'on en parle très peu, que l'on voit les corps des candidats, que l'on voit leurs corps, qui sont aussi le produit d'histoires sociales très différentes.
Alors, leurs habits aussi, on est à la radio, alors on peut peut-être l'expliquer, parce que pour beaucoup de nos auditeurs, ils n'ont sans doute pas, en Afrique ou ailleurs, regardé le débat. Ils étaient tous, alors pour les hommes, en costume cravate, sauf Philippe Poutou, et pour les femmes, il y avait Marine Le Pen, qui portait aussi une sorte de veste très chic, et Nathalie Arthaud, qui, elle, portait une chemise.
Oui, il y avait clairement des différences de classe qui s'expriment dans les corps, alors qui s'expriment pas simplement dans les costumes ou leur cherté, dans les cravates comme produit de luxe ou pas, mais qui s'expriment dans la façon de se tenir, dans les mains, dans et je pense que c'est peut-être cela l'un des aspects les plus importants des débats, moins ce qui est dit que ce dont ce que perçoivent les ceux qui regardent l'identité ou de l'homologie de conditions avec les personnes qui parlent. Et ça, je pense que c'est extrêmement important. Par exemple, il est bien évident que sous ce rapport, Emmanuel Macron ressemble à un banquier Poutou
ressemble à un ouvrier, c'est-à-dire ce qu'il a
toute l'allure d'un ouvrier. Ce qu'il met en scène, mais il met en scène la vérité de son histoire sociale.
Est-ce que vous voulez réagir sur ce point, Serge Galam?
C'était en parallèle de votre première question sur le vote utile ou l'appel d'Hamon. Je crois que la discussion de l'intérêt d'un vote utile et stratégique, effectivement, se pose, mais que dans le cas de figure qui nous concerne, il est aujourd'hui, je crois, très difficile de définir qu'est-ce qui serait un vote utile qui va fonctionner à 100%. Parce que le phénomène nouveau, c'est que on va pas se retrouver seulement dans qui peut faire opposition à Marine Le Pen, mais que pour faire opposition à Marine Le Pen, le candidat en face génère aujourd'hui une aversion aussi pour une partie de l'électorat dont il aura besoin pour voter pour lui. Jusqu'à maintenant, on avait l'aversion anti-FN pour une bonne partie de l'électorat qui crée ce plafond de verre. Et cette fois-ci, on va avoir une aversion double et de savoir laquelle va être la plus forte.
Alors, on va y venir. Vous allez nous expliquer en détail quels sont vos travaux sur cette fameuse abstention différenciée qui pourrait aboutir, selon vous, à une élection de Marine Le Pen, malgré ce plafond de verre, malgré moins de 50% de votants pour elle. Mais d'abord, je voulais vous donner la parole à vous, Willy Pelletier, sur cette notion de vote utile. Vous êtes engagé, vous dites non, c'est une énorme erreur aujourd'hui que de voter utile, comme on dit, ou voter stratégie aussi, tactique.
Mais je reprendrai ce qui vient d'être dit. Pour l'instant, une enquête du CVIP vient de sortir et montre que 66% encore, et ce sont des chiffres récurrents, des personnes interrogées sur des panels là pour le coup amples, hein, autres que les panels plus réduits des sondages, ne savent pas pour qui ils vont voter. De telle sorte qu'on est ici en pleine fabrication et imposition d'une opinion publique par des sondages qui n'ont absolument aucune validité. Le vote utile, on ne sait pas pour qui ça peut être aujourd'hui. Et on serait peut-être à 2 jours du scrutin, peut-être que les choses se seraient décantées un tout petit peu.
On est à 2 semaines et demie, c'est rien du tout.
Mais si, manifestement si, puisqu'il y a tout de même beaucoup d'incertitudes, beaucoup de volonté de taire son vote également, parce que la gestion des silences est aussi quelque chose qui socialement doit être considéré. Donc voter utile est une parole d'ordre qui permet souvent de justifier, excusez-moi d'être un peu direct, quelques trahisons politiques. Je pense bien sûr à la parole donnée par Manuel Valls, mais je pense également
au Premier ministre qui a annoncé qu'il soutenait Emmanuel Macron dès le premier tour, malgré sa promesse.
À Daniel Cohn-Bendit qui s'en va dans le même chemin, au nom des mêmes raisons, un pseudo vote utile, et qui en réalité solde là de vieux comptes avec ses associés rivaux d'Europe Écologie Les Verts.
Alors Serge Galam, je voudrais, vous voulez pas vous positionner exactement sur le vote utile, mais en revanche vous avez mené des travaux dont on a pas mal parlé depuis quelques semaines, puisqu'ils tendent à montrer que dans certaines conditions, il serait possible que Marine Le Pen soit élue. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer, même si c'est très complexe, hein, c'est vraiment des maths, mais dans quelles conditions vous pensez que c'est possible ?
Alors en termes très simples, c'est de dire... On a des intentions de vote de gens qui disent « je veux voter pour Marine Le Pen » et d'autres pour son challenger. Disons aujourd'hui, les deux plus plausibles, c'est soit Fillon, soit Macron. Maintenant, la question, c'est comment on passe de l'intention de vote à mettre un bulletin de vote dans l'urne. Normalement, c'est pas un handicap très difficile à faire. Simplement, comme je disais tout à l'heure, comme l'un ou l'autre des candidats qui vont être face à Marine Le Pen crée une aversion avec une difficulté à aller voter pour eux, beaucoup de candidats, c'est mon hypothèse, de candidats,
donc vous
pardon,
voulez dire
d'électeurs.
Fillon a créé une aversion avec les scandales et Macron parce qu'il est au-delà des partis, parce qu'il ne serait pas vraiment quelqu'un de gauche. C'est ça ce que vous voulez dire ?
Pour un certain nombre d'électeurs, oui, que c'est ambigu, que de savoir quelle va être sa politique, que c'est ni gauche ni droite. Donc, dans les deux cas, et ça, c'est quelque chose de tout à fait nouveau, c'est que d'habitude, il y avait ce vote anti-FN qui était quasiment automatique, même s'il a baissé en intensité, mais ce qui crée ce plafond de verre. Mais aujourd'hui, dire je vais aller voter contre Marine Le Pen, pour un bon nombre d'électeurs, ça va avoir un coût. Maintenant, rationnellement, il est très difficile encore pour ces électeurs de dire « ben non, je vais m'abstenir et laisser gagner Marine Le Pen ». Donc ça, c'est mon hypothèse. Il continue à dire « je vais quand même y aller ». Et le jour du vote, eh ben finalement, à la moindre occasion, la bonne excuse, un bon nombre d'entre eux n'iront pas voter. Alors, je ne prédis pas qu'on va en avoir beaucoup. Ce que je montre, c'est étant donné une certaine proportion de ces personnes qui disent vouloir voter contre Marine Le Pen et qui finalement ne le feront pas, c'est ce que j'appelle une abstention inavouée, mais inavouée presque vis-à-vis d'eux-mêmes, c'est-à-dire c'est simplement que c'est trop difficile ce choix,
et ben ça peut... On parle de cas de conscience pour beaucoup de Français en ce moment.
Exactement, et ça, alors le calcul montre qu'on peut avoir moins de 50% d'intention de vote pour Marine Le Pen, et finalement... plus que 50% de votes exprimés à cause de ce différentiel. Je voudrais vous donner une illustration, mais on peut calculer toutes les valeurs possibles. Imaginons, c'est un cas de figure qui est assez haut, mais qu'elle ait 44% d'intention de vote au deuxième tour, face à un candidat qui a 56% d'intention de vote. Si 90% des gens qui disent vouloir voter pour elle le font, et tous ces électeurs veulent voter pour elle et son programme, c'est-à-dire... mais que seulement 70% de ceux qui veulent voter pour le challenger le font vraiment, elle gagne avec 50,25%. Et on peut voir tous les cas de figure comme ça.
Alors, Willy Pelletier, comment vous réagissez à cette monstration qui vient de nous être faite avec beaucoup de précautions, hein, puisque vous le dites, vous ne prédites pas d'ailleurs, mais vous dites que c'est possible. Est-ce que ça n'augmente pas votre cas de conscience ? Est-ce que ça vous renforce ? Enfin, comment vous vous positionnez ? Parce que là, on nous parle quand même d'une candidate d'extrême droite qui pourrait devenir présidente.
Nous, notre travail a été d'essayer d'analyser pourquoi Marine Le Pen est en cette situation qui peut-être, effectivement, l'amènera aux portes du pouvoir. Alors, cette fois-ci, je ne sais pas. La prochaine fois, c'est bien possible. Parce que si les mêmes politiques de modernisation libérale, c'est-à-dire de libéralisation dans les entreprises, de démantèlement des services publics, des aides sociales, des protections sociales, des collectivités locales dans leurs dotations, etc., sont développées, alors oui, quel que soit le vote contre Marine Le Pen, qui ne la fera pas passer cette fois-ci, elle va par contre voir abonder le nombre des personnes qui se reconnaîtront dans ce qu'elle dénonce, parce que les causes sociales des votes Marine Le Pen vont augmenter. Donnez un exemple, ou deux exemples si vous voulez. Aujourd'hui, beaucoup de votants Le Pen viennent du rural pauvre. Bon, monde rural pauvre, c'est neuf. Pourquoi ? Parce que dans ces zones, il n'y a plus de services publics, il n'y a plus de bureaux de poste, il n'y a plus de médecins, il n'y a plus de pharmaciens, il n'y a plus de trains, il n'y a plus de services de car, des écoles ferment, les églises même ferment. Vous savez, on est en présence de beaucoup de lieux où il y avait de l'entre-soi populaire, même y compris, je suis pas très majorette, mais des sociétés de majorette, je suis pas très pêche, chasse, nature et tradition, mais des sociétés de pêche, etc. et qui créait un entre-soi où se générait de la réputation locale, de l'estime de soi, de l'identité pour les personnes. La seule identité positive qui reste, puisque les partis de gauche voient dans ces territoires leur ancrage social être réduit à néant presque, c'est l'identité qu'on voit dans les meetings de Marine Le Pen. On est chez nous, on est français, c'est la seule qui reste.
Donc ce que vous êtes en train de dire, c'est finalement, j'essaie de lire en filigrane, si il y a ce vote utile en masse qui donc permet à Marine Le Pen de ne pas être élue, finalement ça favoriserait peut-être une réélection après, parce que de toute façon les bonnes réponses ne seraient pas apportées, elles ne sont pas portées aujourd'hui par ceux pour qui on a tendance à voter utile, c'est ça?
Absolument,
ce que vous dites?
Absolument, parce que si vous voulez, si on veut comprendre pourquoi il y a des votes, d'où viennent les votes, il faut examiner qui est responsable de ces votes. Et par exemple, qui est responsable des votes Le Pen? Est-ce que ce sont ceux qui votent Le Pen? Ou bien est-ce que ce sont ceux qui créent toutes les causes, toutes les conditions pour que prolifèrent les votes Le Pen? Et par exemple, les gesticulations sécuritaires de Manuel Valls, quand la place Beauvau gouvernait l'État, pourrait-on dire, même à Matignon, eh bien, ont beaucoup fait pour, une sorte de publicité gratuite pour Marine Le Pen. Donc, si on ne change pas ce qui produit des souffrances sociales extrêmement fortes et puissantes, une exaspération des concurrences de tous contre tous, au travail, dans les quartiers, dans les familles même. Bref, un chacun pour soi généralisé, un chacun sa merde généralisé, si je puis me permettre, et une sorte de sauve-qui-peut général dans les classes populaires, où le général de ce sauve-qui-peut s'appelle Marine Le Pen. Alors, si on ne change pas ce qui crée cela, bien sûr, Marine Le Pen arrivera cette fois ou l'autre.
Serge Galam.
Ce que je voulais dire, c'est que je peux être d'accord, et c'est juste d'analyser les causes de la situation, mais qu'aujourd'hui, on ne peut pas changer cette situation en 15 jours. C'est-à-dire, donc aujourd'hui, les gens qui veulent voter Marine Le Pen vont le faire, parce que là, rien va changer. Et la question, c'est, est-ce qu'il y a réellement un vote utile qui puisse marcher à coup sûr? Parce que qu'on considère Macron, qui est celui qui est mis en avant, comme le plus utile, entre guillemets, mais qu'on mette Fillon, même si on va mettre Mélenchon, comme je disais tout à l'heure, chacun de ces trois candidats va générer, parmi les électeurs potentiels anti-Le Pen, une répulsion, une aversion, pour des raisons différentes. Mais chacun va générer ça. Maintenant, il est extrêmement difficile aujourd'hui d'être capable d'envisager lequel va générer le plus d'aversions qui font qu'on va avoir cette abstention inavouée. Et c'est pour ça que
on est dans une grande incertitude. On n'est même pas sûr qu'il puisse exister un vote utile, c'est
ça ? Non, je dis qu'aujourd'hui, il est extrêmement difficile de déterminer quel serait le vote utile, mais qui garantisse finalement la défaite de Marine Le Pen. Parce que chaque vote utile possible, c'est-à-dire les trois candidats, je ne pense pas que... Peut-être que Hamon va tout d'un coup rebondir, mais aujourd'hui, disons, Mélenchon continue à sa montée, c'est peu probable, mais imaginons. Mais sinon, c'est Macron, Fillon, Mélenchon, chacun de ces trois candidats a une partie d'électeurs anti-FN qui ont beaucoup de mal, qui auront beaucoup de mal à voter pour l'un ou l'autre. Et la question, ça va être des proportions à la fois qui vont être neutralisées et des gens qui disent « moi, je vote Le Pen », parce que en fonction aussi de l'un ou l'autre de ces candidats au deuxième tour, il y a des gens qui vont passer à Le Pen.
Alors, il ne nous reste même pas une minute, mais je vois que vous voulez réagir à Willy
Pelletier.
Non,
moi, je souscris à l'analyse. Tout cela ne va pas de toutes les façons se régler contre Marine Le Pen ici. Il faudra une mobilisation, je pense, longue, une mobilisation populaire, un nouvel entrain, j'allais dire black, blanc, beurre, comme on a pu le connaître, qui passe par de la reconstruction de l'entre-nous en milieu populaire sur des bases qui ne soient pas patriotiques ni ethno-racistes, mais sur les bases de ce que nous avons en commun et de ce qui nous pose des difficultés dans ce que nous subissons au travail, dans les voisinages, contre les services publics, etc.
Merci beaucoup Willy Pelletier, sociologue, auteur avec Gérard Mauger de Les classes populaires et le Front National. Merci à vous Serge Galam, physicien de formation. Merci à Florence Ponce et Quentin Bresson.
1,2 milliard d'habitants.